Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
On se retrouve dans un tout petit instant avec notre invitée aujourd'hui, Sylvie Tellier, pour parler des Miss France. On aura le docteur Marty avec nous qui va nous raconter un petit peu les menaces dont il est victime. Et puis évidemment, avec les débatteurs, nous reviendrons sur le décès de Valérie Giscard d'Estaing. Vous pouvez évidemment nous appeler pour témoigner, 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Ça va très bien, on va recevoir Sylvie Tellier. Pourquoi?
Bah, c'est toute votre jeunesse qui s'en va, Valérie Giscard.
Bah non, je... Pas tout à fait. Mais on va évidemment parler du décès du président de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à partir de 11h moins le quart. On aura avec nous le docteur Marty qui va nous raconter les menaces de mort dont sont victimes un certain nombre de médecins. Et puis Sylvie Tellier, notre invitée, évidemment, pour parler de la soirée des Miss France qui, une fois de plus, est l'objet d'un très grand nombre de polémiques. Voilà. Donc, la question du jour concerne les Miss France, Gilles.
Eh bien oui, on s'est demandé ce que vous pensiez de l'élection de Miss France, parce qu'en effet, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de critiques autour de cette élection. On vous a demandé si c'était une tradition française pour vous. Est-ce que c'est ringard ou est-ce que vous ne regardez pas? Eh bien, à 53%, vous ne regardez pas. Nos auditeurs sont des petits menteurs. Hein. Ça fait quand même presque 5 millions chaque année.
Ça cartonne chaque année.
5 à 6 millions. Et sinon, c'est une tradition française qui arrive. C'est vrai que ça représente la France, ses régions... Et que voilà, c'est une élection importante. On fête ses 100 ans, hein, Valérie, on en parlera.
Donc vous pourrez voter sur le Twitter,
sur le compte Twitter de
Sud Radio. Voilà, on va passer au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Et oui, dans la nuit, on a appris évidemment la mort de Valéry Giscard d'Estaing, homme politique moderne, qui, tout comme Kennedy, s'était entouré, vous savez, de publicitaires. On est une émission média, donc j'ai voulu parler de la télé. Il avait tout compris de la force qu'allait devenir la télévision. Et d'ailleurs, BFM en a fait un condensé.
Il était le premier président à avoir utilisé la télévision comme une arme politique.
Je voudrais regarder la France au fond des yeux.
Un an avant l'élection présidentielle, il n'hésite pas à jouer au football devant les caméras et répondre torse nu aux interviews.
Les ministres des Finances ne sont pas considérés que ce sont des personnages à part, ce sont des gens, des hommes comme les autres qui exercent la fonction de ministre des Finances. Il y a beaucoup de Français qui jouent au football, il y a beaucoup de Français qui portent du col roulé, j'en ai vu quelques-uns sur le pelouse d'ailleurs.
La télévision, Valéry Giscard d'Estaing l'utilisera aussi pour attaquer ses adversaires politiques, comme lors du débat présidentiel de 1974 face à François Mitterrand.
Je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Et même lors de son message d'adieu après avoir perdu l'élection présidentielle de 1981, Valéry Giscard d'Estaing quitte l'Élysée en laissant une scène culte à la télévision française.
Au revoir.
Ça, on n'a pas fini de l'avoir sur les réseaux sociaux. On l'a déjà vu à peu près 200 fois, le au revoir, effectivement. Donc,
c'est la première chose que vous m'avez envoyée, si on veut que je trahisse quelques secrets entre nous.
C'est
le au revoir. Et puis, dans la nuit, c'est évidemment Roselyne Bachelot qui a annoncé aux sénateurs la disparition de l'ancien président. Elle était sur toutes les chaînes info à ce moment-là.
Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel, et c'est la fin de la tutelle sur la télévision publique et donc de l'ORTF. Un hommage sera rendu et ce sera justice.
Et oui, la télé moderne, c'est grâce à Valéry Giscard d'Estaing. Bon, Valérie, il y en a qui ne perdent pas le nord. Vous avez appris hier l'autorisation donc, du vaccin anti-Covid en Grande-Bretagne. Et du coup, certains se sont posés une petite question.
Est-il vrai que je peux aller me faire vacciner en Angleterre?
Alors désolé Corée, je vais vous décevoir, j'aurais tendance à vous dire que c'est faux, parce que c'est vrai, vous pouvez être impatient et on peut avoir l'idée comme ça de se dire tiens si je traversais la Manche pour avoir en premier les vaccins, il y a quand même un élément qu'on ignore encore, est-ce que cette vaccination sera soumise à une condition de nationalité anglaise, est-ce qu'il faudra être britannique pour être vacciné? Là le consulat n'était pas en mesure de nous répondre aujourd'hui, donc on attend des détails dans les jours à venir.
Depuis cette annonce, les réservations de resta ont augmenté de 18%, madame.
C'est bizarre parce que les sondages nous disent que les Français sont très réticents.
Ils veulent se faire vacciner, ils sont prêts à aller à Londres. Ils sont prêts à aller à Londres. C'est fou, hein, c'est quand même dingue. Ouais. fait. Et pour finir sur BFM, une application originale pour se déstresser, où on peut crier, hurler ses colères.
C'est une espèce de hotline anti-stress. Et vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Vous appelez le numéro. Et puis, ben, après, vous avez plus qu'à lâcher votre cri le plus primal, le plus viscéral, histoire d'évacuer un bon coup tout le stress que vous avez accumulé depuis le début de la pandémie. Il s'agit d'un répondeur qui enregistre les cris, et ces cris, vous pouvez les retrouver sur le répondeur, sur le site de Just Scream. Je vous ai sélectionné mes préférés.
Pardon, j'ai pas entendu, Gilles, ce que vous avez dit.
Ah, j'ai pas parlé.
Ah, je crois que vous aviez parlé.
Non, c'était dans le son, c'était le journaliste du son. Mais en tout cas, Valérie, si vous voulez déstresser quand vous avez des débats un peu houleux dans l'émission de débat, je pourrais vous donner le téléphone, je pourrais hurler comme ça juste après l'émission.
Ou le donner à nos auditeurs aussi, qui parfois sont très énervés. Allez, notre invité du jour, Sylvie Tellier.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France. Bonjour Sylvie Tellier, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être avec nous parce que vous avez fort à faire. Cette année 2020 a été une année hors du commun pour beaucoup d'entre nous, mais pour vous, peut-être encore plus, puisque vous avez été obligée d'aménager totalement le concours de Miss France. Vous avez imaginé, alors je précise que ça va avoir lieu samedi 19 décembre à 21h05. On vous reçoit aujourd'hui parce que après vous allez rentrer dans cette bulle avec les Miss.
Alors j'en suis sortie parce qu'on a créé la bulle, j'en suis sortie, mais il va me falloir du temps pour pouvoir y re-rentrer effectivement. Et je ne pouvais pas venir vous voir la veille de l'émission parce qu'il faut plusieurs jours, le temps de se refaire tester pour bien respecter toutes ces mesures sanitaires.
Alors, il faut dire aussi que c'est le centenaire. Il y a un livre très beau, très, très sympa, Miss France 1920-2020, que vous racontez. C'est paru aux éditions Hors Collection. Il y a des photos où on voit vraiment l'évolution du concours, l'évolution du style des Miss. Racontez-nous ce qui a changé cette année. Comment est-ce que déjà vous avez imaginé l'annuler cette année, ce concours Miss France?
Alors, cette année, on a tout imaginé, mais comme vous, hein, toutes les personnes qui font des spectacles, qui sont dans les médias. Effectivement, lors du premier confinement, on s'est demandé si cette élection pourrait avoir lieu. Mais on a fait comme tous les Français, on s'est adapté et c'est vrai qu'on a réorganisé tout ce système en fait des élections, que ce soit départementale ou régionale. Les départementales ont été faites de façon digitale. Cet été, on a été déconfiné, donc on a pu faire des élections en plein air. Puis on a aussi fait des élections régionales à huis clos. On a mis en place du vote SMS. Et jusqu'au dernier moment, on a croisé les doigts pour que cette élection ait lieu parce que Miss France, c'est un rendez-vous annuel, c'est un peu une émission de fête, de fin d'année, où on invite les gens à venir rêver avec nous. Et il me semble qu'en cette période très compliquée, très anxiogène, on a encore une double mission, c'est d'apporter de la légèreté aux gens. Voilà, de leur dire effectivement, il y a un contexte sanitaire qui est très lourd, un contexte économique qui est très lourd, mais bon, le temps d'une soirée, venez vous évader et venez rêver avec 29 candidates.
Alors ces candidates, elles sont à Versailles, c'est ça? Elles ne peuvent plus sortir?
Elles sont à Versailles.
À cause du Covid, c'est ça?
Elles sont. On n'a pas pu cette année, évidemment, les emmener vers une destination lointaine, mais on a décidé de leur offrir un voyage hors du temps à Versailles, de faire découvrir aussi la métropole, nos Miss Outre-mer, qui ne la connaissent pas pour la grande majorité. Elles ont pu visiter le château de Versailles en visite privée. Elles ont réalisé toutes leurs séances photo officielles à Versailles, ont été chouchoutées comme des dites princesses. Avant de prendre la direction du Puy du Fou, elles partent demain. Les répétitions vont commencer et pendant 15 jours, elles vont répéter au Puy du Fou, dans ce parc qui est complètement fermé depuis des mois.
Et vide, oui.
Voilà, et qui est un écrin fantastique pour organiser cette élection. Elles n'auront de contact avec personne, sauf les Puy Follet, évidemment, qui sont présents, qui sont également testés. Oui. Et pendant une dizaine de jours, elles vont préparer tous les tableaux de cette élection de Miss France que les gens retrouveront en direct Ouais. Samedi soir sur TF1.
Alors, vous n'avez pas été épargné par les polémiques. Chaque année, je crois qu'on a droit à une polémique autour des Miss France.
Vous êtes gentille.
Mais cette année, ça a été particulièrement gratiné. Déjà sur le choix du palace de Versailles, alors que les hôtels sont fermés. Le jury composé. Alors, c'est bien, ça fait parler, hein, mais jury exclusivement composé de Miss France, issue de toute génération. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, après, le choix n'a pas dû être évident à faire.
Pour ça que j'ai demandé à mon producteur, Frédéric Gilbert, et à TF1, de surtout ne pas m'en mêler, parce que choisir 9 jeunes femmes pour présider le jury, alors que, bon, elles seront une trentaine sur scène, hein, pour ouvrir cette élection, c'est une ouverture événement, hein, qu'on va proposer aux Français. Mais c'est vrai que c'est impossible.
Oui, mais vous savez que personne n'y croit. Que vous avez forcément eu un regard. Mais vous êtes la patronne des Miss. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas regardé à un moment.
J'ai regardé,
la liste.
Mais je n'ai pas donné mon avis.
Oui. Mais
non, je vous assure.
Vous auriez pu
influencer
TF1 quand même, vous êtes la patronne.
Non, on n'influence pas TF1 de cette façon-là. Et surtout, je ne voulais pas, moi, choisir parce que déjà, je suis très attachée à toutes ces jeunes femmes. Alors oui, effectivement, vous avez des femmes qui sont un peu plus médiatiques que d'autres. Mais vous savez que moi, je m'attache beaucoup au fond. Et je suis très contente que TF1 ait choisi de mettre à l'honneur justement des femmes comme ça qui ont traversé les
jeunes
générations.
Jeunes et moins jeunes.
Oui, Muguette Fabry qui a quand même été professeur de mathématiques, est une femme que j'adore, qui a participé au bouquin, qui est une petite boule d'énergie, d'humour et tout. Je la remercie d'être là, Maréva Georges. On n'aura pas la chance cette année d'avoir Miss Tahiti parce que les mesures Covid n'ont pas permis d'organiser une élection. Mais Tahiti sera là dans le jury grâce à Maréva.
Après, quand on regarde la liste, quand même, c'est que des gens qui sont médiatisés. Nathalie Marquet, femme de Pernod, médiatisée. Sonia Roland, médiatisée. Elodie Gossuin, qui est tous les jours à la radio. Vous avez également Linda Hardy, qui est tous les soirs sur TF1.
Oui, mais vous ne citez pas Muguette Fabry, Patricia Bardi et Maréva Georges.
Mais ça, c'est pour...
Oui, mais c'est un peu facile. Il faut faire une vraie lecture.
Il y a un petit peu tout. Il y a effectivement...
Et Iris Mittenaere, quand même, de TF1.
Je vais défendre Sylvie Tellier. Il y a quand même une diversité. C'est normal qu'on prenne aussi des
Moi, j'aurais
des
aimé Maréva
que...
Galanterre. Je l'aime beaucoup.
Elle était là l'an dernier.
Oui, c'est vrai.
Voilà, elle peut pas... Je peux pas la mettre tous les ans. Enfin, TF1, je peux pas la mettre tous les ans.
Évidemment, vous avez droit, comme quasiment chaque année, aux attaques de Geneviève de Fontenay.
Pourquoi elle vous déteste à ce point ?
Vous savez, Geneviève c'est... je ne sais pas si on peut utiliser ce mot détester, parce que moi, j'ai beaucoup d'affection pour Geneviève et je la remercie de... Ben, c'est pas réciproque.
Ça l'a été pendant un moment.
Je crois qu'en fait, ce qui est compliqué pour Geneviève, c'est cette médiatisation qu'il y a autour de Miss France, toujours un mois avant le programme. Je pense foncièrement que elle n'aurait pas dû partir parce qu'elle est elle est vraiment attachée à ce concours. Et aujourd'hui, l'aigreur qu'elle peut avoir, alors elle est vis-à-vis de moi parce que je représente ce concours, mais je pense que Miss France lui manque.
Et pourquoi ne pas l'inviter ? Mais elle a été envisagée.
Non, on l'a invitée. Elle l'a très bien dit. Elle a dit qu'elle avait refusé parce qu'elle ne voulait pas être associée à l'émission.
Oui.
Quand elle dit il n'y a plus les costumes folkloriques, il n'y a plus tout l'apanage qu'il y avait avant, quand elle dit que vous les faites défiler sur plusieurs musiques alors avant qu'il y avait une seule musique, c'est parce qu'elle est nostalgique ou vous avez voulu vraiment moderniser le concours?
Bah écoutez, j'ai envie de vous répondre que si moi mon élection c'était il y a 20 ans, regardez-la. Si c'était la même aujourd'hui, j'aurais pas de candidate en fait. Ça fait pas rêver des jeunes femmes de faire la farandole pendant 20 minutes. Quand on a 18, 20, 25 ans, ce que veulent les Miss, c'est défiler dans des robes, certes de princesse, mais c'est sur des musiques françaises et internationales. On a des musiques vraiment un gros mélange de musiques, mais notre émission doit coller aussi à la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, c'est avec les réseaux sociaux, c'est avec des musiques internationales, c'est avec, des robes, mais également des maillots de bain de pièces. Il faut vivre avec son temps. Et Geneviève, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, elle n'a pas voulu prendre ce virage des années 2000. Il fallait le prendre. Et il me semble qu'on a fait les bons choix, puisque l'élection est encore suivie par millions de Français le soir de Miss France. Je crois que l'année dernière, près de 7 millions en moyenne, des pics à 8-9 millions. Ça montre que ça plaît quand même aux Français, en tout cas, je l'espère.
Vous êtes blessée par les attaques
Extrêmement.
Ouais. Oui.
Bah oui, ça m'attend, parce que je suis pas en acier trempé. Et oui, oui, je suis blessée. Après, mon rôle n'est pas de savoir si je suis blessée ou pas. Mon rôle de directrice de l'organisation Miss France, c'est de faire en sorte que le concours ait lieu dans le respect
après,
de la
vous
santé.
Vous êtes une femme, vous êtes un être humain. Je veux dire, les réseaux sociaux, est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous les évitez? Est-ce que parfois, il vous arrive de pleurer en voyant certaines remarques, certaines attaques?
Alors oui, je suis très blessée par certaines attaques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Après, le premier conseil que je donne, c'est il faut lire les commentaires, mais attention, il ne faut pas les prendre au premier degré. N'oublions pas que souvent, déjà sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de gens qui ne sont pas contents que ceux qui sont contents. Ceux qui sont contents, ils prennent rarement la parole. Et ceux qui ne sont pas contents, ils sont souvent cachés derrière un numéro de téléphone, une adresse IP. Et je peux vous dire, Valérie, que tous les messages que vous lisez sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que vous croisez les gens dans la rue, ils oseraient en fait. Je pense que c'est peut-être les premiers qui vous demanderaient à vous un autographe. Donc, faut prendre de la distance par rapport à tout ça.
Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue justement quand on vous croise?
Moi, les gens sont extrêmement sympathiques dans la rue. Ah ouais. Je pense qu'ils sont contents de ce qu'est le concours Miss France. C'est pour ça que je suis toujours très étonnée parce que c'est pas du tout l'image que me renvoient les gens aujourd'hui. Donc
ni ce que dit l'audience.
Ouais. Après, on va reparler du concours et une dernière polémique. Alors moi, j'ai été très surpris, j'ai trouvé ça, mais d'une violence extrême. C'est les attaques de Jean-Pascal Lacoste qui vous attaquent, mais très souvent chez Touche pas à mon poste. Il vous a traité, je ne vais pas répéter le nom ici à Sud Radio, mais c'était très violent. Il vous dit qu'il ne vous aime pas, que vous êtes une méchante. Alors, vous êtes sa belle-mère, c'est ça?
Mais pas
belle-sœur,
du tout.
Ah, sa belle-sœur.
Non, mais j'ai quel âge?
Oui, pardon, excusez-moi.
Non, alors déjà, je ne connais pas cette personne. Je tiens à le dire, je ne l'ai jamais rencontrée.
Jamais rencontré?
Jamais eu au téléphone. Je ne connais pas cette personne. Après, a priori, je crois que depuis la rentrée, toutes ces attaques lui ont permis d'être très présent dans un programme sur C8.
Bon. Pourquoi vous ne l'appelez pas pour lui dire « arrête tes bêtises, viens me voir et on discute ensemble »
Mais parce que je n'ai pas... En fait, à partir du moment... Vous savez, à quand est-ce qu'on va recevoir sur un plateau télé, je ne sais pas moi, un spécialiste d'Enedis qui va dire que j'ai raté mon rendez-vous de changement de compteur? Aujourd'hui, c'est quand même terrible. On est dans une société où on donne la parole à des gens sans vérifier les informations. Que Jean-Pascal ait de l'animosité envers moi, je le respecte et je ne vais pas l'appeler pour lui dire pourquoi vous ne m'aimez pas. Il a le droit de ne pas m'aimer. En revanche, il ne faut pas faire croire que l'on se connaît, en fait, et que je refuse un dialogue, puisque, encore une fois, je ne connais pas cette personne.
Comment ça s'est organisé, la sélection, justement, avec le Covid? Comment est-ce que les Miss ont candidaté? Ça s'est fait de façon virtuelle? Ça a dû
Ça a pris plusieurs formes. Oui. Et je remercie Jean-Pierre Pernaud parce que pendant le premier confinement, on a mis en place, en fait, des tutoriels avec Clémence Bottineau pour permettre aux jeunes femmes de candidater de façon digitale. Elles nous envoyaient leur dossier de candidature en vidéo. Et on a eu beaucoup de dossiers qu'on renvoyait nous sur nos délégués dans les départements et dans les régions. Donc elles ont pu s'inscrire aux élections départementales. Des élections départementales ont eu lieu de façon virtuelle, c'est-à-dire que par exemple les Miss étaient reçues une par une en Languedoc-Roussillon. Je prends l'exemple de Miss Beaucaire qui a été organisée comme ça. Elles étaient reçues une par une, filmées, on mettait ces vidéos en ligne et puis les gens votaient gracieusement sur le site internet de Miss Languedoc-Roussillon, puis on élisait une jeune femme. Et puis après, l'été est arrivé, nous avons été déconfinés, il y a eu les élections régionales, on a pu faire des élections en public, également à huis clos, on a fait voter les gens par le digital. Vraiment, cette année, ça a pris toutes les formes parce que l'objectif était de désigner ces représentants des régions et je remercie mes délégués régionaux qui ont fait preuve d'investissement, d'ingéniosité. Il faut rappeler que la majorité sont bénévoles et ils ont été super. Donc si vous nous écoutez, je suis sûre que vous nous écoutez sur Sud Radio. Merci mes délégués.
Et puis Valérie, à la suite de l'élection qui aura lieu donc le samedi, il y aura un documentaire où ils ont suivi une année hors du commun Clémence
Bottineau,
qui a été plus souvent confinée qu'à la fête de la saucisse. Ça lui a manqué. C'est une drôle d'année pour elle. Elle regrette des choses ou pas du tout?
Alors, figurez-vous, Clémence Bottineau, alors déjà, est une grande optimiste. C'est quelqu'un qui a l'habitude de voir le verre à moitié plein. Et elle se réjouit. Elle s'est réjouie toute l'année de ce qui lui est arrivé. Alors, effectivement, oui, il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire parce que c'est pas une année comme comme d'habitude, mais elle a été très contente de ce qu'elle a pu faire. Et je la remercie aussi parce qu'elle a, elle a fait preuve d'une super énergie. Ouais, moi, j'ai adoré passer une année avec Clémence. C'est une jeune femme qui est brillante, intelligente. Et c'est pas terminé pour Clémence. Il y a plein de belles choses qui l'attendent. Elle va s'engager dans la production de films.
Mais non.
Mais bien sûr, oui, elle a un film qui sort qui s'appelle Gogo, qui est sur le lien intergénérationnel. Qui a, c'est quelque chose qu'elle a développé. C'est un combat qu'elle a mené pendant son année de Miss France. Elle a la chance, Clémence, d'avoir une famille très engagée dans la production cinématographique. Et elle va s'essayer derrière la caméra.
Voilà. Incroyable.
Oui. On vous retrouvera donc le 19 décembre avec évidemment le concours Miss France et puis juste après le documentaire Une année hors du commun. Merci Sylvie Tellier.
Merci à vous.
Bonne chance, bon courage à vous pour les 15 jours, 15-18 jours qui suivent où vous n'allez pas chômer. Voilà. Merci à vous.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Voilà, donc qu'est-ce voilà. que ça donne notre sondage, Gilles ?
Bon, bah, toujours, la tradition française, on s'est demandé ce que vous pensiez de Miss France et de l'élection Miss France, ça fait toujours débat en France, et bah, ça fait débat aussi sur le Twitter du Sud Radio, Valérie. Une tradition ouais. française, on vous avait proposé 26%, c'est ringard, 14%, je ne regarde pas, 60%. Donc voilà, moi je trouve que voilà, c'est culturel, les Miss France à 100 ans, ça fait ouais. partie du folklore, quoi, voilà. Non ?
Ouais, mais surtout, non, mais surtout je ne regarde pas. Non, je suis pas convaincue par les gens qui disent je ne regarde pas parce que c'est vrai que ça fait des cartons d'audience. Donc bon, voilà, c'est une consultation voilà. Sur Internet, voilà. Merci Gilles, on se retrouve.
Il ne regarde que la fin au moment voilà. où on découvre la Miss France.
On se retrouve dans un tout petit instant avec le docteur Marty et les menaces dont sont victimes les médecins, tout de suite.
Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
Je tiens à remercier vraiment Sud Radio pour toutes les émissions, c'est vraiment magnifique.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons évidemment revenir avec les débatteurs sur le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez d'ores et déjà réagir au standard de Sud Radio 0826 300 300. Pour le 10h30, la parole à une personnalité. Aujourd'hui, le docteur Jérôme Marty. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Vous avez publié Le scandale des soignants contaminés aux éditions Flammarion. Et j'ai été interpellée par, par un de vos tweets où vous exprimiez cette haine dont sont victimes un certain nombre de médecins. Quand je dis haine, c'est menaces de mort que vous recevez. Alors il y a parmi vous évidemment le docteur professeur Karine Lacombe, un certain nombre d'autres médecins, et cela depuis la sortie du documentaire Hold Up, c'est cela ?
C'est ça, oui, en gros, c'est ça. Alors, ça avait commencé un petit peu avant Hold Up, mais ça a été potentialisé très largement par ce qu'on peut appeler le documentaire Hold Up, qui a cristallisé un petit peu toutes les pensées négationnistes, complotistes, d'irritation, etc. Ce qui veut dire que les médecins sont passés, en fait, par les deux extrêmes. On nous a applaudis, et puis maintenant, on nous insulte jusqu'à nous menacer parfois de mort.
Oui, et alors comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, c'est là, je vous provoque un petit peu, des médecins entre eux qui, en fait, en disant tout et son contraire, enfin, ou en n'étant pas d'accord, ont jeté le doute et le discrédit sur la profession médicale ?
Il y a surtout une crise qui dure depuis maintenant 10 mois. Et comme elle dure depuis 10 mois, elle a enfanté tout un tas de propos qui sont des propos qui sont faux, qui visent à manipuler un certain nombre de personnes, qui sont des personnes qui ont peur, qui sont épuisées, qui sont fatiguées de vivre ce Covid, qui sont fatiguées de vivre le confinement. Et vous avez des gens qui, derrière, tirent un petit peu les ficelles et manipulent en disant que le Covid a été inventé par l'homme, en disant que les médecins cotent des actes Covid pour se faire de l'argent, qu'ils ont tué dans les maisons de retraite en injectant du Rivotril, etc., etc. Donc, si vous avez des gens fragiles qui prennent ça au pied de la lettre, vous pouvez très bien avoir, un jour ou l'autre, une agression de médecins jusqu'au drame, quoi. Donc, c'est extrêmement grave, ces choses-là. C'est des choses qu'on avait connues sous H1N1, mais qui avaient été plus courtes, on va dire, dans le temps, et qui, là, paradoxalement, n'avaient pas été présentes au début de la crise. Parce qu'il y avait une forme de sidération, je pense. Et puis, comme ça a duré, vous avez cette théorie un petit peu complotiste qui apparaît. Et c'est vrai, vous avez raison, les médecins n'ont pas dit tous la même chose. On a eu des gens qu'on a appelés, j'aime pas ce terme, les « rassuristes », entre guillemets, qui ont passé leur temps à dire « il ne se passe rien, on vous ment, il n'y a pas de seconde vague », qui maintenant ont des propos sur le vaccin, pareil, qui sont assez dangereux, disant le vaccin est dangereux, allant jusqu'à dire qu'on va injecter des nanoparticules, etc., ce qui donne du grain à moudre à tous ceux qui derrière ont ces théories-là.
Alors c'est ce qu'a insinué le professeur Perron hier chez notre ami et confrère André Bercoff. En fait, il disait ce ne sont pas des vaccins, c'est de la thérapie génique, etc. Non. Mais comment les Français peuvent s'y retrouver dans tout ça ? Parce que on va vous dire oui, mais pourquoi c'est vous qui avez raison et pourquoi eux ont tort ?
Mais moi, je vais vous dire, nous, on est très factuels. Ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir se reposer sur la médecine générale et la médecine de ville pour la vaccination. On va devoir s'y reposer parce que la médecine de ville, individuellement, dispose d'un taux de confiance qui est très important vis-à-vis de ses patients. Chaque patient a confiance en son médecin, en son infirmière, en son pharmacien. Et c'est donc ces professions qui vont devoir expliquer pourquoi il faut se vacciner ou pourquoi il ne faut pas, d'ailleurs. Pour cela, il faudra que nous ayons tous les documents scientifiques qui sont en relation avec ces vaccins. Ces documents, pour l'instant, on ne les a pas dans le détail. Donc, tout ce que l'on peut avoir, c'est une communication parcellaire sur l'intérêt de se vacciner. Ça, c'est la première chose. Quand le professeur Perron intervient, il n'a pas plus ces renseignements que nous dans le détail. Et c'est là où c'est grave. Nous, on est factuels. On dit juste, voilà l'apport d'une vaccination. Et dès que nous allons avoir les détails, nous allons expliquer à nos patients pour qu'ils aient le consentement éclairé et qu'ils décident en conscience si oui ou non ils se vaccinent. C'est tout, c'est aussi simple que ça et ça ne va pas plus loin.
Ouais. Qu'est-ce que vous dites, je parle pour mes confrères qui n'osent pas ou ne veulent pas dire qu'ils reçoivent ce type de menace. Vous en avez reçu. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous portez plainte ? Est-ce que il faut porter plainte ?
Il faut systématiquement porter plainte. d'abord sur la plateforme Pharos, et puis aller porter plainte à la gendarmerie ou à la police si on est en ville, déposer des mains courantes, faire suivre cela. Il ne faut rien laisser sans répondre. Ça, c'est ce que je conseille, moi, à tous, et on en reçoit. Alors, des insultes, on en reçoit des centaines et des centaines et des centaines. On est rentré dans un irrationnel le plus total, parce que pourquoi on nous insulte, au fond? On nous insulte parce qu'on dit respectez les gestes barrières, portez le masque, évitez de vous contaminer, évitez de contaminer les autres, et puis demain, si vous avez un vaccin, on vous expliquera quels sont les tenants et les aboutissants de ces vaccins. Et ça, on nous insulte parce qu'on est arrivé à un niveau où on nie l'existence même de la Covid en disant que les gens meurent d'autre chose, etc., etc. Et donc tous les gens qui, et c'est ça qui est paradoxal, tous les gens qui défendent le fait de respecter les gestes barrières deviennent en quelque sorte des collabos, entre guillemets, du gouvernement. Oui. Or, il y a une telle haine qui est montée vis-à-vis de ce gouvernement qu'on confond tout. Et on confond même l'acte médical avec un acte politique et la présence d'un virus avec un acte politique comme si un virus avait une idéologie.
Ouais. Et oui, c'est ça, c'est devenu un acte politique. Moi, je me suis fait traiter de collabo aussi parce que j'ai porté un masque à l'antenne en studio. On a pas mal de gens qui ne croient pas. Voilà, des arguments que j'ai entendu aussi de ces gens, ceux qui disaient que la Terre est ronde ont été brûlés dans le temps. On les a accusés de complotistes et en fait, ils avaient raison. Donc c'est cet argument qu'on entend régulièrement.
Oui, mais ça, c'est le problème, c'est la loi de Bartolini, vous savez, la loi de Bartolini, ouais. Cette loi qui dit que quand vous avez un argument qui est faux, il vous faut 10 fois plus de temps pour le démonter que pour l'exprimer. Donc, il faut avoir le temps de démonter toutes ces fake news. Et puis, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose quand on voit que aux États-Unis, il y a certaines chaînes qui ont passé leur temps à démonter les fake news de Donald Trump. Et pendant tout son mandat, ça n'a pas servi. Et Dieu sait qu'il y en avait, et ça ne servait pas à grand-chose. Là, on a un problème dans notre pays, il faut quand même oser le dire. On a une montée d'un mouvement qui est le mouvement QAnon. Le mouvement QAnon, c'est un mouvement sectaire qui est né aux États-Unis, qui est passé par le Canada, qui est passé maintenant par l'Allemagne et qui arrive en France, qui n'est pas un truc anodin. Hein. C'est un mouvement politique qui présente des sénateurs aux États-Unis et qui tiennent des théories qui sont totalement, ubuesque ou fadorle, comme on dirait chez nous, qui n'ont aucun fondement scientifique, mais qui servent à manipuler un certain nombre de personnes pour avoir des électeurs, quoi. Donc c'est assez grave, quoi.
On a un auditeur qui nous dit, mais il vient de dire que le professeur Perron n'en sait pas plus que lui, alors pourquoi, de quoi il parle? Ben justement, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Je redis pour notre auditeur, c'est très simple. On a des vaccins, et fort heureusement, on a des vaccins qui arrivent. Ces vaccins, il va falloir, pour les expliquer aux gens et pour expliquer pourquoi il faut se vacciner ou pourquoi il ne faut pas d'ailleurs, il faudra que nous ayons accès à tous les détails des études de ces vaccins. Pour l'instant, les détails de ces études n'ont pas été publiés, mais au vu des éléments que nous avons, nous voyons que les effets secondaires qui ont été décrits pour l'instant sont des effets secondaires assez anodins, du type douleur au point d'injection, céphalée, fatigue, etc. Bon. Quand on va avoir plus d'éléments, on pourra expliquer davantage. Ensuite, il faut dire la vérité, un vaccin, ça peut donner des effets secondaires, y compris des effets secondaires graves, mais qui seront probablement rares et qui vont être suivis par ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui peut, elle, durer plusieurs années. Toute la problématique est de savoir quel est le bénéfice-risque du vaccin par rapport à la pathologie. Et c'est en fonction de ça et en connaissance de cause que l'on peut ou non se vacciner. Les patients restent libres. Le rôle du médecin est d'expliquer et de discuter avec le patient et de lui donner ce qu'on appelle le consentement éclairé. Et quand le patient a le consentement éclairé, c'est lui qui décide.
Qui décide, effectivement. Ouais.
Voilà. Mais affirmer des choses dès maintenant, affirmer oui, vous devez vous vacciner, ou affirmer non, vous ne devez pas parce que c'est de la thérapie génique ce qu'il faut, etc. Ça, je dis, c'est un jeu dangereux.
Moi, je suis assez fascinée, effectivement, du nombre de nos auditeurs qui nous disent c'est de la thérapie génique, moi je connais même pas les termes, ça pénètre dans l'ADN, enfin des choses qu'on entend et dont qu'on ne sait pas.
Ouais, mais sauf que c'est juste faux, c'est pas de la thérapie génique, ce sont des brins d'ARN messager qui sont fabriqué chimiquement et pas par manipulation génétique, donc c'est pas ce qu'on peut appeler la thérapie génique. La thérapie génique, ce sont des manipulations génétiques, ça n'a rien à voir, quoi. Et ensuite, ce brin d'ARN qui va aller être lu par les ribosomes va être progressivement détruit, et il vise à quoi? Il vise à faire fabriquer par les cellules des protéines qui vont permettre de lutter contre le virus. Ensuite, vous avez d'autres modes vaccinaux qui sont de, vous le savez, les trucs habituels, les méthodes habituelles qui sont d'injecter du virus inactivé. Voilà. Donc ça effectivement, c'est un nouveau virus, c'est un nouveau, une nouvelle méthode, et c'est pour cela que nous devons avoir tous les détails pour pouvoir en conscience l'expliquer aux patients.
Alors, juste revenir quand même sur ces menaces qui sont assez nombreuses, assez importantes. Je vois, il y a le docteur Gomiosi qui dit, ce matin, j'ai reçu un recommandé de menaces m'indiquant que si je continue à faire des vaccins, à prescrire des actions de prévention, je vais être intégré dans la liste des génocidaires susceptibles d'être traduits devant un tribunal militaro-populaire. Ça fait partie, du genre de menaces. On rappelle que le harcèlement en ligne est passible de 2 ans de prison, de 30 000 euros d'amende. Des menaces de mort sont passibles d'une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous allez porter plainte? Vous avez, vous, déposé des plaintes, docteur Marty?
Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Moi, j'en suis à 3 plaintes et j'en redéposerai chaque fois que je recevrai des menaces. C'est une évidence. Ben, est-ce que les gendarmes, puisque moi, je suis dans le secteur rural, prennent ça très au sérieux? Ils font très bien leur boulot. Et vous savez, depuis le drame horrible Samuel Paty, les gens sont extrêmement attentifs à cela, parce que nous sommes aussi dans une période de notre pays où on est en vigilance extrêmement renforcée par rapport au terrorisme. Donc tout ce qui est menace de mort ou autre sont pris très au sérieux. Alors je crois que les gens qui se prêtent à ce jeu ne mesurent pas les problèmes qu'ils peuvent avoir. Je crois que c'est pas anodin. Je veux dire, les réseaux sociaux, que ce soit Messenger, que ce soit Twitter ou autre, ce sont des pseudonymats. Les gens ont l'impression qu'ils sont anonymes, ils ne le sont pas du tout. En 2 clics, on remonte l'anonymat. Donc il faut faire attention, quoi.
Et vous continuez à être sur les réseaux sociaux et à parler et à dire ce que vous avez à dire?
Mais je continue à faire mon job, quoi. Ouais. Moi, je suis médecin, donc moi, mon rôle, c'est de faire de la santé publique. Donc excusez-moi, mais on a un virus qui circule encore. Depuis le début, on a alerté. J'ai alerté au début, je passais pour quelqu'un qui était contre le gouvernement parce que je disais, attention, il nous faut des masques, on n'en avait pas et le gouvernement les masquait. Et dès l'instant où on a commencé à avoir des masques, parce que j'ai continué à dire, il faut des masques, et là je passe pour un collaborateur du gouvernement. Mais ce truc-là est absurde. Je suis juste un médecin, quoi.
Oui, vous êtes un médecin et vous êtes assez critique d'ailleurs sur la façon, sur l'organisation. On peut lire vos derniers tweets sur l'organisation et la façon dont les choses ont été mises en place. Merci d'avoir été avec nous ce matin, docteur Marty. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour évoquer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. À tout de suite.